On va poursuivre ces soirées à thématiques. On a donné le titre « Un cœur pour Dieu » à ces soirées parce que c'est ce qu'on veut avoir. On a aussi ce petit slogan qui va avec « Nos cœurs se satisfassent de sa gloire », que vraiment le fait de le contempler fasse du bien à nos âmes. Et notre but cette année, c'est de nous pencher, de nous concentrer, focaliser sur la personne de Dieu lui-même. Et on veut contempler sa gloire. Le fait de connaître Dieu a toujours un effet bouleversant sur l'homme. Parce que Dieu veut nous arracher de notre ignorance hostile à son égard pour nous approcher de lui, pour que nous le connaissions. Et cette connaissance-là, c'est ce qui nous transforme, c'est ce qui nous conduit aussi à l'adoration. Tout comme Moïse a vu la présence de Dieu dans le buisson ardent, nous voulons aussi nous approcher de ce Dieu qui est un feu ardent, un feu dévorant. On sait, on va le voir encore plus ce soir, donc de manière ultime, nous voyons la gloire de notre Dieu sur le visage de Jésus. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous le dit, c'est Colossiens qui nous dit que Jésus, c'est l'image visible du Dieu invisible. Et à force de contempler Jésus, nous sommes transformés en son image. Donc le fait de contempler Jésus, contempler Dieu, c'est profondément transformateur. Dieu veut nous transformer en adorateur qui l'adore en esprit et en vérité. Et donc ça, c'est notre but avec ces soirées. Ce n'est pas simplement de nous gaver avec de l'information théologique, mais vraiment de connaître Dieu. Pour l'aimer davantage, pour l'adorer davantage. Et si on ne le connaît pas bien, on ne va pas l'adorer. Si on veut être vraiment une église qui adore Dieu, ben forcément, il faut vraiment connaître ce Dieu qui se dévoile dans les Écritures. Alors jusqu'ici, nous nous sommes penchés sur la question de la connaissance de Dieu, donc c'était un peu la première séance, son intérêt. Ensuite, sur la connaissance de Dieu comme notre créateur, celui à qui nous devons tout. Donc le fait qu'il est notre créateur nous amène à l'adorer. Donc c'est parce que nous lui devons tout. Ensuite, la fois dernière, parce que c'était Noël, juste avant Noël, nous nous sommes penchés sur la question de Jésus, l'incarnation, le Dieu qui s'est fait homme, Jésus, l'homme-Dieu. On a vu que Dieu, la deuxième personne de la Trinité, a pris une chair humaine, il a habité parmi nous. Et nous avons eu l'occasion de voir, de réfléchir aux conséquences, aux implications pratiques pour notre salut du fait que Dieu s'est fait homme. Et ce soir, nous allons un peu revenir en arrière, si on veut, dans la logique biblique. Et on va nous pencher sur un aspect de la personne de Dieu. Alors, c'est un aspect de la personne de Dieu qui n'est pas souvent mis en valeur, mais pourtant, c'est un thème majeur, vraiment majeur dans toutes les Écritures. Notre Dieu, celui qui est notre Père, Jésus, le Saint-Esprit, celui qui nous aime, est un Dieu qui fait des alliances, qui a fait des alliances, qui se souvient de ses alliances, qui garde ses alliances. Et c'est un thème qui va du début jusqu'à la fin de la Bible, et c'est un thème on ne peut plus important parce qu'il nous montre la fidélité de Dieu. Vraiment le cœur de qui il est. On va voir qu'il est un Dieu qui est vraiment digne de confiance. Et cet aspect de sa personne, si on le comprend très bien, cela nous rassure, ça raffine notre foi, ça nous donne une confiance en lui. Donc, et bien sûr, ça nous amène à l'adorer davantage, à l'aimer davantage. Donc, voici un peu les enjeux de ce soir, les buts aussi. Alors, qu'est-ce que nous entendons par le terme « alliance » ? Alors, où est-ce qu'on rencontre pour la première fois dans la Bible ce thème ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ça ? C'est dans la Genèse, très bien. 17, on le voit, c'est vrai, mais on le voit avant ce passage-là. Avec Noé, voilà, donc c'est au chapitre 6 avec Noé. Mais ce mot va revenir sans cesse dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ce dimanche passé, on a la prédication portée sur la scène. Et on va voir que Jésus, juste avant d'aller à la croix, avec le dernier repas, donc il a expliqué à ses disciples que la coupe représentait son sang, et l'alliance, la nouvelle alliance scellée en son sang, donc le sang de Jésus versé sur la croix est ce qui scelle la nouvelle alliance. Si on pense même au titre que nous avons dans la Bible, on a le Nouveau Testament et on a aussi l'Ancien Testament. Le petit mot « testament », ça veut dire « alliance ». C'est la même chose. Donc, nouvelle alliance, ancienne alliance. Et c'est parce que ce concept structure toute la pensée biblique. Si on n'a pas encore intégré ce concept dans notre manière de comprendre la Bible et de comprendre le Dieu de la Bible, ben nous avons un peu de travail à faire et ça, c'est un peu le but de ce soir. Alors, de quoi parlons-nous lorsque nous parlons d'une alliance? Nous parlons d'une promesse solennelle ou d'un contrat solennel selon lequel ceux qui s'y engagent jurent de rester fidèles au terme du contrat. Donc, c'est contrat, donc promesse solennelle. Nous sommes en tout cas, du moins en partie, dans le registre juridique, en quelque sorte. Ça ressemble à un contrat juridique. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que les nations font des alliances entre elles. On parle aujourd'hui des alliés, donc des nations qui s'allient pour faire quelque chose. Il y avait des alliances entre peuples dans l'Ancien Testament. Et on voit que l'alliance entre le peuple de Dieu et Dieu ressemble aussi à ces alliances faites entre peuples. On voit aussi que dans la Bible, que le mariage, donc le mariage entre un homme et une femme, donc pour rejoindre ce débat sur ce projet de loi, donc le mariage est entre un homme et une femme, et c'est décrit comme une alliance. Malachie 2, verset 14, pour ceux qui aimeraient chercher ça ou noter ça comme référence, le mariage est aussi dans le registre juridique. Dieu décrit sa relation avec son peuple de différentes manières. Il n'y a pas que cet aspect juridique, mais c'est le langage qu'il affectionne en particulier. C'est ce langage d'alliance et d'alliance maritale. Un contrat de mariage implique une relation. Donc ça, c'est un thème très fort dans la Bible. Une relation d'amour, une relation où il y a un engagement à la fidélité. Et tout ça est scellé par un sceau juridique. Ici en France, ce sceau juridique est accordé par l'État qui observe et qui valide cet engagement. Le mari et la mariée ne peuvent dissoudre ce contrat sans l'accord de l'État. L'État, c'est un peu le gage de la solennité de ce contrat. Après avoir échangé des vœux solennels, le marié et la mariée échangent des anneaux en signe de l'alliance qu'ils ont établie entre eux. Ils portent des alliances pour se souvenir de cette alliance et pour dire à tous ceux qui les entourent que voilà, moi j'ai fait une alliance solennelle d'exclusivité, de fidélité. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, Dieu explique de manière métaphorique. Oui, c'est une image, mais c'est une image qui est vraiment parlante parce que ça ressemble tellement à ce que c'est réellement. Il utilise cette métaphore du mariage pour sa relation avec son peuple. Il parle de fiançailles et du mariage. Donc, c'est dans les livres comme Osée et Éphésiens. L'apôtre Jean nous enseigne que Dieu est amour. C'est quelque chose que nous aimons dire. Vraiment, cet amour est au cœur de la personne de Dieu. Dieu est amour. Et cet amour est tellement important et précieux pour notre Dieu qu'il choisit de l'exprimer par le biais d'une alliance. C'est comme ça qu'il choisit de le faire. L'amour de Dieu n'est pas inconstant. Ce n'est pas dans la nature de Dieu d'être inconstant. Et c'est pour ça qu'il est le Dieu d'alliance, qui fait alliance, qui y reste fidèle. Ce thème des alliances, et on va voir ça ce soir, rime avec les thèmes de son amour. Il va de pair avec ce thème-là. Il va de pair aussi avec le thème de sa fidélité, sa constance et aussi sa présence, son engagement envers nous. Le fait que Dieu fait alliance et il reste fidèle définit la nature de notre relation avec lui. Il définit sa propre personne. Comme nous allons voir, l'alliance qu'il a faite avec nous en Jésus définit une relation d'amour permanent. Et qui est permanent? Parce que Jésus lui-même a rempli toutes les conditions. Parfois, on aime dire que l'amour de Dieu est inconditionnel. Et dans un sens, il est inconditionnel. Mais dans un autre sens, il est bien conditionnel. Mais Jésus a rempli toutes les conditions de cet amour. Jésus lui-même s'est donné. Dieu s'est donné en Jésus pour que l'amour de Dieu peut porter sur ses enfants de manière pleine, juste et sans réserve. De manière fondamentale, quand il s'agit de notre relation avec Dieu, la grâce nous précède. C'est vraiment la grâce de Dieu qui précède ce que nous faisons nous. Et c'est elle qui nous conduit au salut. Et ensuite, dans un deuxième temps, à l'obéissance. Une citation de Sinclair Ferguson, « L'amour d'alliance de Dieu n'est pas le résultat de notre engagement, mais il en est la cause. » Donc si on veut aimer Dieu, si on veut l'aimer davantage, ben, il nous faut cette alliance et cette grâce. Et fort de cette grâce, on peut l'aimer davantage. Alors, on a plusieurs points ce soir. On va parcourir un peu la Bible. Oui, je vois que... Merci David. Plusieurs points, mais en fait, ce sont des points qui sont là sur vos polycopiers, les polycopiers sur vos tables. Merci. Ah oui. Ah non, ça ne marche pas. Ah oui. C'est pas grave. Ah oui, c'est bon, David. Oui, merci. Ouais. C'est bon. En fait, c'est ce qui est sur le polycopier, donc ça, c'est pas vraiment une présentation, avec plein d'images. J'aurais souhaité faire quelque chose comme ça, mais ce soir, c'est, voilà, un peu dépouillé. Et l'intérêt aussi de ce soir, je pense, à force de parcourir la Bible et voir les alliances, on va essayer de comprendre tout le déroulement de l'histoire, du récit de la Bible. Donc, dans un sens, les alliances sont les fondements du récit biblique. Si on comprend bien la structure des alliances, on commence à comprendre comment le récit de la Bible forme un seul récit, finalement. Et pour ceux qui enseignent la Bible à l'Église, peut-être la prédication, peut-être l'école du dimanche, dans différents cadres en tout cas, le fait de bien comprendre comment le récit de la Bible se déroule, ça nous aide à toujours enseigner chaque passage de la Bible dans son contexte. Donc si on connaît le contexte large de la Bible, ça nous permet, voilà, pour chaque texte d'avoir ce contexte-là. Alors, on va commencer au début de la Bible. Certains parlent d'une alliance que Dieu aurait faite avec Adam et Ève. Nous lisons dans les textes de la Genèse que le Seigneur Dieu, donc on l'a fait il y a quelques semaines, a fait l'homme à son image et il lui a confié une tâche à faire, celle de se multiplier et de le représenter comme vice-roi ou comme gérant à sa place dans sa création. On a vu que Dieu lui a donné une loi généreuse, donc il ne fallait pas qu'il mange d'un des arbres du jardin, mais il pouvait manger de tous les autres arbres du jardin, donc c'est une loi généreuse. Mais cette loi montrait à l'homme, lui montrait également ses limites, ce qu'il ne pouvait pas faire, ses limites en tant que créature. Il a donné ainsi à l'homme l'occasion de lui obéir et de lui montrer son amour. Il lui a donné un but aussi, un but qui va au-delà de son travail. Le septième jour, c'est ce jour de repos qui nous montre que le but ultime de l'homme n'est pas son travail, mais c'est Dieu lui-même. C'est le fait de connaître Dieu. C'est le fait de glorifier Dieu. C'est le fait de prendre plaisir en Dieu. À la suite de la chute, donc Genèse chapitre 3, Dieu a fait une promesse extraordinaire. Et bizarrement, en fait, c'est une promesse qu'il a faite au diable. On voit dans Genèse 3, chapitre 15, c'est un verset très célèbre, donc il dit au diable, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors, c'est une promesse bien énigmatique, mais qui semble indiquer qu'un jour, un fils de l'homme, donc quelqu'un qui est né d'Ève, sera blessé en vainquant le diable. Pourtant, dans ces textes ne parlent pas d'une alliance. On ne voit pas le mot alliance. Donc, Jean-Joël a dit que voilà, la première mention du mot alliance, c'est avec Noé. Alors, il se peut qu'Adam et Ève n'en aient tout simplement pas eu besoin. Ils n'étaient pas encore pécheurs et leur relation avec Dieu se vivait de manière simple. Et Dieu a fait, c'est une fois que le péché est entré dans le monde, à la suite de la chute, que Dieu a fait des promesses solennelles de bénir l'homme, de sauver l'homme, de lui montrer sa grâce. Dieu, il aurait pu éradiquer tout homme de la surface de la terre. Il n'était pas tenu à sauver qui que ce soit. Mais ces alliances qu'il a faites avec des hommes sont toujours faites dans le cadre d'une grâce imméritée. Donc, faites aux pécheurs. Et c'est ce que nous voyons dans la première alliance que Dieu a faite avec l'humanité tout entière et avec Noé en particulier. Donc, on a cette alliance universelle faite avec Noé. Alors, je vous invite à chercher dans vos Bibles le chapitre 6 de la Genèse. C'est le passage qui nous parle de Noé, du jugement de Dieu sur les hommes. Et aussi du salut, salut grâce à cette arche, par le biais de cette arche. C'est le premier passage de la Bible qui mentionne le mot alliance. On va lire à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et plus loin, donc, il annonce que voilà, il va faire cette arche. Au verset 18, il dit, « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Donc, on voit bien le début de cette alliance. Le prénom Noé veut dire repos ou confort. Il se peut que le père de Noé lui a donné ce prénom parce qu'il espérait que par lui, l'humanité accède à ce repos grâce, donc si on pense à cette promesse que le diable sera vaincu. Et c'est vrai que Noé était un homme particulier, un peu à part dans sa génération, le lecteur en le lisant dirait, tiens, qu'est-ce qui va venir par lui? Mais même s'il était à part, même s'il était un homme intègre, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Si Dieu fait une alliance avec lui, cela découle de la grâce imméritée. Et Dieu promet de le sauver, lui et sa famille, par le biais de cette arche en bois. La pluie tombe, et l'eau monte et l'arche sert de refuge pour lui et sa famille et tous les animaux, bien sûr. au chapitre 8, verset 1, donc jetez un coup d'œil un peu plus loin sur le premier verset du chapitre 8, nous lisons que Dieu se souvient de Noé. Dieu fait des alliances, Dieu se souvient de ses alliances et Dieu garde ses alliances. Et ensuite, la pluie ne tomba plus. Dieu est un Dieu qui est vraiment fidèle à son alliance. Noé est sorti de l'arche, il a construit un autel, on voit souvent avec ses alliances qu'il y a un sacrifice qui les accompagne. Il a offert en sacrifice des animaux et Dieu a promis de ne plus maudire la terre à cause de la méchanceté de l'homme. Et plus loin, on voit que Dieu réitère son alliance et il donne l'arc en ciel comme signe de cette alliance. Il y a souvent un signe qui accompagne une alliance, un signe qui communique aux hommes que Dieu va se souvenir de son alliance, qu'il va rester fidèle à son alliance, qu'il a fait une promesse solennelle. Et Dieu, lorsqu'il fait cette promesse, des promesses solennelles, il les garde. Nous pouvons lui faire confiance. On va passer à ce deuxième point, l'alliance qu'il a conclue avec Abraham. Abraham, le père de la foi. On va voir ça dans les semaines à venir avec nos études dans Romains. Où est-ce qu'on l'a déjà vu en fait? Je pense que peut-être on l'a déjà vu. Oui, on l'a déjà vu. En tout cas, je vous invite à trouver le chapitre 12 de la Genèse. Et cette alliance est vraiment peut-être l'alliance la plus structurante de toute la Bible. C'est vraiment, elle va former la trame du récit de la Bible. Dieu fait des promesses et ces promesses, on va le voir, de manière ultime, vont s'accomplir en Jésus-Christ. Alors, lisons les versets 1 à 3. Peut-être je devrais lire dans la version de l'Église. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, je pense que vous avez fait le constat aussi que le mot bénédiction, le mot bénir, revient sans cesse dans ces trois versets. Parce que Dieu y annonce qu'il va défaire toutes les malédictions qui sont intervenues à la suite de la chute. Donc c'est le premier passage où on voit qu'à la suite de Genèse 3, ah, il va y avoir quand même des bénédictions. Il y a de l'espoir. Donc des promesses, en fait, voilà, plusieurs promesses, une grande nation, un grand nom, un grand rôle de bénédiction, avec une bénédiction qui s'étendra jusqu'à toutes les familles de la terre. Et plus loin dans les passages suivants, on voit qu'il lui fait une promesse de lui donner un pays, le pays d'Israël. Dieu annonce une bénédiction, un salut gigantesque. On voit que c'est Dieu qui prend l'initiative. Abraham ne cherchait pas Dieu. Abraham et l'humanité ne méritaient pas ce salut, mais c'est Dieu qui est allé le chercher, et c'est Dieu dans sa grâce qui lui a donné ses promesses qui révèlent la grandeur de sa bonté et de sa générosité. Et comme avec Noé, donc on verrait en fait, si on avait le temps, que cette alliance se révèle en plusieurs étapes. Au chapitre 15 ensuite, et plus loin au verset 17, et ensuite il y a aussi des choses au verset 22. En tout cas, c'est 25 ans plus tard, au chapitre 15, que Dieu lui promet, Abraham, qui n'a pas de descendance, qui n'a pas d'enfant, que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Abraham, on le lit, eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc ceux qui étudient Romains cette année, vous avez déjà vu ce verset, un verset important. Est-ce que vous voyez avec ces promesses faites à Abraham qu'il s'agit de promesses inconditionnelles? Dieu promet de faire ces choses point à la ligne. C'est ce qu'il va faire. Dieu s'engage de manière inconditionnelle, de manière unilatérale, à accomplir, à faire, à déverser ses bénédictions, d'utiliser Abraham et sa descendance pour bénir toutes les familles de la terre. Alors, si on devait jeter un coup d'œil sur le chapitre 15, on y verrait une cérémonie plutôt étrange. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette cérémonie où Abraham coupe en deux plein d'animaux. Et au milieu de la nuit, dans une obscurité profonde, des flammes qui représentent Dieu, passent à travers, donc entre ces animaux partagés, coupés en deux. Et là, c'est ce que nous avons là, c'est une cérémonie d'alliance. Ceux qui lisent des commentaires, c'est le genre de choses qu'on voit que dans d'autres nations à l'époque, c'est le genre de choses qu'ils faisaient. Sauf que là, c'est un peu particulier avec... Il n'y a que Dieu qui passe au travers. L'homme, Abraham, c'est vraiment Dieu qui le fait. C'est ainsi que Dieu a scellé son alliance avec Abraham. Et ensuite, on voit dans les textes qu'il lui donne un signe. Il donne un signe comme il y avait cet arc-en-ciel. Comme pour la nouvelle alliance, il y a le signe du baptême. Il donne un signe, ce signe c'est la circoncision. Signe donné à tous les mâles, tous les hommes de sa famille, un signe qui évoque l'idée d'être purifié, d'être mis à part. Et en effet, Abraham et sa descendance allaient être un peuple mis à part. Et le refrain, le slogan si on veut de l'alliance, et on le voit à plusieurs reprises, ça revient tout le temps. Dieu dit « Je serai ton Dieu ». Et tu seras mon peuple. C'est une alliance qui scelle les liens d'appartenance. Dieu est avec ce peuple. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental à l'alliance, le fait que Dieu promet d'être avec son peuple, d'être présent avec son peuple. Alors, la question qui se pose tout au long de la Bible, après cette alliance avec Abraham, c'est comment est-ce que ce Dieu qui est trois fois saint, comment est-ce qu'il va rester fidèle à cette alliance selon laquelle il va bénir de manière inconditionnelle l'humanité? Comment est-ce qu'il va faire ça, étant donné que les hommes, sont des pécheurs? Il a promis de le faire. Comment est-ce qu'il va tenir sa promesse? Nous sommes à ce troisième point, donc l'alliance faite avec Moïse et le peuple d'Israël, au quatrième point. Alors, des années passent, et les récits nous montrent que Dieu n'oublie pas la descendance d'Abraham. Il renouvelle ses promesses à Isaac, le fils d'Abraham, et puis aussi à Jacob. Et fondamentalement, Dieu est avec eux. Oui, ils font plein de bêtises, on pourrait relire ces textes, et c'est étonnant. C'est vraiment étonnant que Dieu est avec ces hommes. Mais c'est par la grâce. Dieu est vraiment avec eux. Et il nous montre qu'il n'oublie pas ses promesses. Mais l'accomplissement n'est pas encore arrivé. Nous arrivons au récit de l'Exode. Donc je vous invite à trouver le livre de l'Exode, et en particulier le chapitre 2. Et le peuple d'Israël, en tout cas le chapitre 2 de l'Exode. Merci. Le peuple d'Israël est réduit à l'esclavage sous la main puissante et tyrannique du Pharaon. Ils sont là en Égypte. Alors, au chapitre 2, verset 23, nous lisons que les cris de son peuple parviennent aux oreilles de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se souvient de son alliance faite avec Abraham. Dieu n'a pas oublié ses promesses concernant un peuple, une terre, une nation, cette bénédiction qui va s'étendre à toutes les familles de la terre, parce que Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Et ce petit verset nous montre aussi qu'il y a un lien entre ces promesses faites à Abraham et aussi l'alliance qu'il va conclure avec son peuple au mont Sinaï lorsqu'il lui donne sa loi. Par pure grâce, Dieu intervient. Il libère son peuple. Comme pour Noé, la grâce précède aussi l'alliance. L'homme ne peut pas prétendre à quoi que ce soit. Mais Dieu, dans sa miséricorde, vient nous chercher et il nous prend tel que nous sommes. Après la libération, une libération à la fois de la mort, donc on peut penser à l'ange de la mort, donc les Israélites qui ont mis du sang sur les linteaux, ce sang de l'agneau, ce sacrifice, ce repas pascal, les a libérés de la mort, mais aussi de la main de ce dictateur qui, en quelque sorte, je pense qu'on peut dire, représente le diable et l'esclavage du péché. Et Dieu rassemble son peuple autour de lui, c'est-à-dire autour de sa parole. Nous sommes au chapitre 19, au chapitre 20 de l'Exode. Nous sommes avec eux au mont Sinaï. Et c'est là que Dieu leur donne sa loi. On peut penser aux 10 commandements. Dieu dit du haut de la montagne, il annonce lui-même, c'est sa voix qui parle, et le peuple entend et tremble, ils entendent sa voix. Ils sont là autour de lui. Une image de l'Église, en quelque sorte, donc une ombre, une image de ce que nous sommes en Jésus. Nous sommes autour de Jésus, la parole faite chair. Nous sommes là en train d'écouter Jésus. Et Moïse, donc par le biais de Moïse, Dieu donne toute la loi au peuple. Au chapitre 24, Moïse parle du livre de l'Alliance. Et selon les termes de cette alliance, le peuple sera béni s'il obéit à cette loi. S'il n'obéit pas à la loi, le peuple connaîtra la malédiction. Et notamment l'exclusion du pays. Donc si vous voulez noter une référence, c'est Deutéronome chapitre 30, où on voit les conditions de cette alliance. Oui, on voit les conditions, mais c'est quand même une alliance de grâce. C'est une alliance qui permet à Dieu de vivre au sein d'un peuple pécheur. Une des grandes marques de ces alliances, on l'a déjà dit, c'est que Dieu promet d'être avec son peuple, de lui donner sa présence bienfaisante, rassurante, salvatrice. Il y a un temple où Dieu fait résider son nom. On va plus tard dans l'Écriture, peut-être de manière symbolique. Il y a aussi ce système de sacrifice qui permet au peuple pécheur de vivre en paix avec Dieu. On voit qu'il y a même une alliance faite avec les prêtres. Ces alliances, ces sacrifices, on voit beaucoup plus tard, ne sont que des ombres de quelque chose à venir, mais ils nous montrent déjà un certain modèle. Mais la chose à retenir, je pense à ce stade, c'est que cette alliance avec le peuple, il y a il y a des conditions où en fait il faut obéir à Dieu, parce que Dieu aime l'obéissance. Et je pense que c'est un point que nous pouvons parfois oublier. Oui, on est vraiment attaché au salut par la foi seule en Jésus seul. C'est l'élément, c'est l'article de foi qui est absolument critique. Mais ça nous conduit à l'obéissance. Et Dieu se plaît à voir notre obéissance. Lorsque Dieu nous voit en train d'obéir à sa parole, ça lui plaît, ça fait plaisir à Dieu. Et il dit à son peuple ici dans l'Ancien Testament qu'il n'y aura point de salut, point de bénédiction sans obéissance. C'est quelque chose de fondamental. Donc au chapitre 24, au verset 6, on lit « Moïse prit la moitié du sang, donc il y a eu un sacrifice, qui mit dans ses bassins et répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. » Le peuple, donc, ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Voilà cette alliance qui sera appelée l'ancienne alliance par l'Épître aux Hébreux. Ensuite, nous arrivons à l'alliance faite avec le roi David. Des années passent. Le peuple est dans le pays, la terre promise. Donc, cela veut dire que l'alliance faite avec Abraham, cette promesse de donner le pays d'Israël au peuple, est accomplie. Donc, cette alliance, ces promesses sont partiellement accomplies. Mais nous ne pouvons pas dire que la situation est satisfaisante. À la fin du livre des Juges, on lit ceci, donc c'est le dernier verset du livre des Juges. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et on sait que lorsque chacun fait ce qu'il veut, c'est le chaos. C'est la loi du plus fort qui l'emporte. Il y a beaucoup d'injustice, les faibles sont piétinés. La clameur se lève pour trouver un roi. Alors, cette requête n'est pas sans problème. Si on devait lire ces passages, on voit que c'est quand même perçu ou c'est compris comme le désir de remplacer Dieu qui est le roi ultime. Mais Dieu l'avait prévu. Et en fait, Dieu l'a même choisi. Ça fait partie de son plan. Il a choisi de régner sur son peuple par un roi. Et c'est comme ça qu'il choisit d'accomplir toutes ses promesses de bénédiction, ses promesses qu'il a faites à Abraham. Donc nous sommes à cette alliance faite avec David. Donc je vous invite à trouver le chapitre 7 du livre de 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 7. Et c'est le prophète Nathan qui parle. Et il parle à David, à la suite d'une requête de David. David voulait construire une maison pour Dieu, donc un temple pour Dieu. Et dans 2 Samuel, chapitre 7, il a la réponse de Dieu. Donc le verset 8. « Annonce maintenant à mon serviteur, David, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. » Donc il y a un jeu de mots dans l'hébreu avec maison et dynastie. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Et dans le psaume 89, donc je vais juste lire ça pour vous, on lit « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux, j'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. » Il s'agit d'une alliance. Il a fait une alliance perpétuelle avec David. David dit à la fin de sa vie, donc c'est à la fin de 2 Samuel, « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs ? David a confiance en l'Éternel. Il se sait en sécurité avec lui parce qu'il sait que Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Ses promesses sont son salut. Le psaume 89 que je viens de citer montre que ses promesses s'accompagnent de ses bontés et de sa fidélité. Et ces mots traduisent tout l'amour fidèle, l'amour d'alliance que Dieu a pour son peuple et aussi pour David. Et c'est parce que son amour s'ancre dans ses alliances. Il est un Dieu qui est éminemment fidèle et bon. Bien sûr, ça, la vraie grandeur de cet amour d'alliance, se verra et s'expérimenta de manière profonde dans Jésus-Christ. Mais ceux qui espéraient en Dieu à l'époque de David goûtaient déjà à cet amour, un peu comme par anticipation. Le problème dans tout l'Ancien Testament est vraiment l'infidélité du peuple de Dieu. Tout comme Adam, tout comme tous les hommes d'ailleurs, Israël n'a pas pu honorer la parole de Dieu, n'a pas pu honorer cette alliance conclue entre le peuple et Dieu à Sinaï. Le peuple s'attire sur lui des malédictions. Le peuple est exilé loin de la présence de Dieu, loin du temple. Et c'est vrai, dans des moments comme ça, ça a dû être très difficile de croire les promesses de Dieu. Comment est-ce que Dieu va vraiment accomplir ses promesses de bénir son humanité? Il a fallu avoir la foi. On voit dans Hébreux ces hommes de l'Ancien Testament qui avaient la foi, cette foi inébranlable. Vers la fin de l'Ancien Testament, tout comme Moïse avait prévu dans la loi, Dieu renouvelle ses promesses. Il évoque la promesse d'une nouvelle alliance. Donc nous sommes ici à la nouvelle alliance annoncée. Et ce sont les prophètes Jérémie et Ézéchiel qui en parlent de manière vraiment très claire. Donc je vous invite à chercher le chapitre 31 de Jérémie. Jérémie 31, toujours facile à retenir ce passage parce que c'est 31. Merci. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors ce n'est pas juste une refonte de l'ancienne alliance, de la vieille alliance, mais c'est une nouvelle alliance. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu exigeait cette obéissance du peuple parce que Dieu aime l'obéissance. Mais le problème de l'homme, c'est son cœur qui est tortueux, qui n'arrive pas à obéir à Dieu. On peut pas essayer, mais on n'arrivera jamais à vraiment obéir pleinement à Dieu. Même peut-être nos efforts les meilleurs sont teintés par l'orgueil, par l'autosuffisance, par l'incrédulité. Mais Dieu promet de changer les choses. Il promet cette chirurgie spirituelle au niveau de nos cœurs. Il promet d'écrire sur les cœurs de son peuple sa loi et il promet de les pardonner, de ne plus se souvenir de leurs péchés. Ça, c'est une promesse formidable. Et c'est ainsi que Dieu va vivre éternellement avec son peuple. C'est ainsi que son peuple va pouvoir goûter jour après jour de manière éternelle à sa bonté, à l'amour, à cet amour qui découle de son alliance. C'est une alliance de grâce. Et dans Ézéchiel 36, on voit quelque chose de semblable. Donc, on va aller à partir du verset 22. Ézéchiel, c'est le livre qui suit, en fait, suit Lamentation d'abord et ensuite. 36, verset 20, on va lire à partir du verset 24. Je vous arracherai aux nations, parce que c'est un peu le contexte de l'exil, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vous aspergerai d'eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos impuretés. Je ferai apparaître le blé et je le multiplierai. Je ne vous frapperai plus de famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs afin que vous ne connaissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite et de vos agissements incorrects. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, déclare le Seigneur l'Éternel. Sachez le bien et ayez honte et rougissez de votre conduite, communauté d'Israël. Dieu va agir pour rétablir l'honneur de son nom. Dieu agit pour être fidèle à ses promesses, faites d'abord à Abraham. Et c'est ainsi que le monde saura qui il est. En lisant ces deux textes, je suis frappé par le rôle de l'obéissance. Dieu promet d'agir pour régler le problème de notre faute, de notre désobéissance systémique. Il désire un peuple qui le connaît et qui le suit fidèlement. Et là, nous arrivons bien sûr à Jésus-Christ, l'homme le plus fidèle qui soit. L'Israélite le plus fidèle qui ait jamais vécu. C'est Jésus lui-même qui nous dit, juste avant d'aller à la croix, donc on a déjà évoqué ce passage, il évoque la nouvelle alliance, l'alliance en son. Donc je cite Luc chapitre 24. « Ensuite Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps ». Qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alors même si cette alliance est bien nouvelle, elle n'est pas sans rapport avec toutes les alliances qui l'ont précédée. Elle est l'accomplissement de ces alliances. Dans l'épître de Paul aux Galates, l'apôtre Paul nous dit que cette promesse faite à la descendance d'Abraham s'accomplit en Jésus. Il nous dit que cette descendance, c'est Jésus. Un peu un jeu de mots sur le mot « sa descendance » parce que ça peut être compris au singulier comme cela peut être compris aussi au pluriel. Et tous ceux qui se fient à Jésus sont bénis avec lui, en lui, tout comme Abraham. En fait, ils sont bénis en Jésus parce qu'ils sont unis à Jésus par la foi. Et on voit qu'Abraham a eu cette même foi. C'est par Jésus que Dieu défait les malédictions de la chute et qui bénit toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre peuvent vivre avec Dieu, connaître ce pardon, faire partie de sa famille, avoir la vie éternelle, avoir la vie. Et c'est en Jésus que ces choses faites. Jésus est l'Israélite parfait, celui en qui il n'y avait pas de péché. Dieu l'a agréé. On le voit lors de son baptême. Dieu dit à haute voix, « Voilà mon fils en qui je trouve plaisir. » Et nous le voyons aussi à la résurrection, lorsque Dieu le réhabilite, lorsque Dieu le ressuscite. C'est Dieu qui est en train de dire, « Voilà mon fils en qui je prends plaisir. » Dieu ne pouvait pas bénir le peuple d'Israël. L'alliance faite avec eux, avec Moïse, exigeait cette obéissance. Mais en Jésus, c'est chose faite. Ceux qui se fient à Jésus sont le peuple de Dieu à tout jamais. Jésus accomplit cette obéissance à notre place. Et son obéissance est la garantie de l'alliance. Cette alliance avec Jésus est solide. Dieu ne va pas revenir en arrière. Ça ne dépend pas de nos performances de tous les jours parce que Jésus a accompli cette condition d'obéissance. Dieu bénit son obéissance. Il bénit tous ceux qui sont en lui, saints et saufs en lui. Et nous qui faisons confiance à Jésus sommes bénis d'une autre manière aussi. Nous avons le pardon des péchés. Jésus a pris sur lui le châtiment qui aurait dû être le nôtre. Il a pris sur lui la malédiction qui aurait dû être la nôtre. C'est comme le prophète Ésaïe qui l'avait prévu. C'est un passage bien connu, donc c'est Ésaïe 53. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, ces malédictions qui sont là dans l'alliance faite avec Moïse. Jésus a été un meilleur sacrifice que ceux des agneaux et des bœufs. L'Épître aux Hébreux nous montre que notre alliance en lui est bien meilleure, supérieure, la plus excellente. Hébreux chapitre 7. Sans sang, le sang d'un homme obéissant, le sang d'un homme qui est Dieu lui-même, est bien supérieur au sang des animaux. Il est d'une valeur inestimable. L'apôtre Jean nous dit qu'aujourd'hui, Jésus, notre chef d'alliance, est à la droite de Dieu. Il est là et il plaide notre cause. Il plaide notre cause non pas sur la base de notre performance de tous les jours, nos mérites, ce que nous faisons dans la vie, mais sur la base de son sacrifice. Ce sacrifice bien suffisant, toute son obéissance et le fait qu'il a pris notre malédiction à sa place. Jésus, on n'a pas vu ce passage avec Abraham, où Abraham a offert en sacrifice Isaac. Dieu a fourni un agneau, heureusement. Mais en Jésus, nous avons cet agneau qui prend la place de l'homme. Et on voit aussi que Jésus est ce roi qui est dans la ligne de David. Le roi parfait, sans désobéissance. Et Dieu établit sa seigneurie à tout jamais. Il le fait lors de la résurrection. Donc on peut voir les passages dans les Actes des Apôtres où c'est la résurrection qui déclare que Jésus est vraiment Seigneur, qu'il est vraiment le roi. Alors, la conclusion. J'espère que vous voyez que ce thème, celui de l'Alliance, est vraiment un thème majeur dans les Écritures. Et c'est vraiment quelque chose qui caractérise Dieu lui-même. Notre Dieu est un Dieu qui rassemble son peuple en Jésus, celui qui est le médiateur d'une nouvelle alliance. Notre Dieu est un Dieu qui fait alliance, qui se souvient de son alliance, et il y reste fidèle. Et c'est dans sa nature d'agir comme ça. C'est ainsi que Dieu montre sa fidélité. C'est ainsi que nous pouvons expérimenter la grandeur de son amour. On dit que l'alliance, qui est le mariage humain, protège l'amour. C'est le cadre qui permet au couple de se donner l'un à l'autre. Leur relation est basée sur une promesse solennelle de fidélité, une promesse de rester ensemble dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, jusqu'à ce que les morts les séparent ou jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et c'est ce cadre qui les permet de s'ouvrir l'un à l'autre, de se faire confiance, de bâtir l'avenir. Et de manière analogue, de manière similaire, la relation entre Dieu et son peuple en Jésus-Christ est une alliance, un cadre où l'amour d'alliance, cette bonté, cette fidélité peut s'épanouir. Dieu veut que nous sachions qu'il sera toujours fidèle à son alliance. Il veut que nous sachions qu'il a déjà tout fait pour qu'il puisse rester fidèle à son alliance. Nos péchés sont déjà couverts. Sa colère est déjà apaisée. Rien ne lui empêche de nous garder dans sa présence. Nous sommes à lui et il est à nous. Jésus a dit avant de partir, donc c'est à la fin de l'évangile de Matthieu, qui sera avec ses disciples, qui sera avec nous jusqu'à la fin de l'âge. J'espère, et à force de voir cet aspect de la personne de Dieu, que nous pouvons l'adorer davantage, nous pouvons l'aimer davantage, parce que notre Dieu est un Dieu qui est bon et fidèle. Alors, en guise de conclusion, je vais vous lire le psaume 100, le centième psaume. Un psaume que nous pouvons reprendre sur nos lèvres, nous qui sommes les croyants de la Nouvelle Alliance. Le psaume 100. Qui est à la page 401. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté, ou on pourrait traduire par son amour d'alliance, dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Je vous invite à la prière. Prions. Merci à notre Père de ce que nous pouvons t'appeler Père, que grâce à Jésus, grâce à son sang, tu as fait de nous un peuple dans ta présence, un peuple purifié à tout jamais, sanctifié à tout jamais. Merci de ce que cette alliance est inconditionnelle. Toutes les conditions ont déjà été remplies par Jésus. Merci de ce que cela nous donne une confiance, une assurance. Nous n'avons pas à gagner ce salut. Nous n'avons pas à garder notre place par nos œuvres. Mais fort de cet amour, apprends-nous à l'obéissance, cette obéissance qui te plaît tant. Donne-nous une joie d'entrer dans ta présence. Et dans ta présence, façonne-nous à ton image. Père, nous voulons te remercier pour tes promesses. Merci de ce que toute la trame de la Bible nous montre ta fidélité. Tu as promis ces choses il y a des siècles et tu es resté fidèle à tes promesses. Et Père, ça nous donne l'assurance que tu vas rester fidèle aux promesses que tu nous as faites en Jésus-Christ. Père, aide-nous à te faire confiance à tes paroles, même dans les moments difficiles de la vie. Ça doit être très difficile pour les croyants de l'Ancien Testament d'avoir cette foi dans ces moments difficiles en exil. Je te demande de nous aider dans ces moments où on est. Parfois, on ressent le fait que nous ne sommes pas encore entrés dans cette terre promise. Donne-nous la foi, donne-nous la confiance en toi, aide-nous à te faire confiance à tes promesses. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Voilà, on va essayer de terminer avec un cantique.